Pourquoi les Quakers ont-ils été persécutés? En effet, tous ceux qui sont résolus à vivre pieusement en Christ Jésus subiront la persécution. 2 Tim 3, 12 Les Quakers ont été persécutés parce que des membres payant des épiscopaliens, des presbytériens, des baptistes et des puritains congrégationalistes quittaient leurs églises pour rejoindre les Quakers. D'après la parole du Seigneur au-dedans, les chrétiens craignaient les premiers Quakers, tout comme les juifs craignaient Jésus, car en quelques années seulement, des églises chrétiennes entières se vidèrent de leurs auditeurs, écoutant des prédicateurs répéter les paroles de la Bible, pour devenir des auditeurs du Christ dans les réunions silencieuses Quakers. Les ministres et les prêtres coururent alors aux tribunaux, poursuivant tout Quaker qui cessait de leur payer la dîme. Comme les Quakers ne pouvaient pas prêter serment au tribunal, Jésus et Jacques le leur ayant interdit, ils furent jetés en prison. Lorsque le Seigneur envoya des Quakers, hommes et femmes, dans leurs églises pour prêcher la vraie espérance et la vraie foi, les ministres et les prêtres s'adressèrent encore davantage aux magistrats et aux tribunaux. Le succès du mouvement des premiers Quakers finit par vider de nombreuses églises dans toute l'Angleterre, et la violence de l'opposition s'intensifia. Le Parlement adopta des lois contre toute réunion Quaker, la peine étant des amendes, l'emprisonnement et finalement, le bannissement vers des colonies lointaines des Caraïbes. Ceux qui persécutaient les Quakers étaient des baptistes, des épiscopaliens, des presbytériens et des puritains congrégationalistes, prétendant qu'ils étaient les vraies brebis et que les Quakers étaient les loups déguisés en brebis dont Jésus nous avait avertis. Mais les brebis tuent-elles les loups? Non, ce sont les loups qui tuent les brebis. Ainsi les premières brebis Quakers souffrirent tandis que les loups protestants les tuaient, les emprisonnaient, leur prenaient leurs biens et les envoyaient en esclavage. Comme la Bible l'avait prophétisé, la fausse Église tua les vrais saints de Dieu. Le christianisme était devenu, et l'est encore, la prostituée de Babylone, ivre du sang des saints. Les Quakers furent persécutés parce qu'ils ne retiraient pas leur chapeau au tribunal, refusaient de prêter serment en justice, voyageaient le soi-disant sabbat chrétien, pour vagabondage blasphème, et parce qu'ils se réunissaient pour adorer sans suivre la liturgie et le format de culte épiscopalien. Mais ce n'était que des prétextes, car les autres sectes dites chrétiennes haïssaient les Quakers parce que, tout comme Paul fut envoyé dans les assemblées juives pour prêcher le véritable évangile, de même les premiers Quakers furent envoyés vers ces sectes qui se réclamaient du nom du Christ, pour prêcher un salut qui devait être vécu, entendu, ressenti et vu au-dedans d'une personne, et non simplement présumé avoir eu lieu en déclarant une croyance et en se faisant mouiller. Le grand Quaker des débuts, Isaac Pennington, a écrit au sujet du phénomène de la persécution. Où faut-il s'attendre à voir la tromperie des âges après le Christ tué par les Juifs trompés? Les Juifs ont-ils nié Moïse et les écrits, ou les ordonnances des prophètes? Non, n'y étaient-ils pas au contraire très zélés, et cela n'était-il pas leur couverture, sous laquelle ils persécutèrent le Christ et déversèrent toute leur malice contre lui? Ainsi peut-on s'attendre aujourd'hui à ce que les trompeurs de cet âge nient les écrits des apôtres, ou les pratiques qui y sont mentionnées? Ou n'est-il pas plutôt à attendre que, tout en les exaltant à grands cris, ils cachent leur inimitié contre la vie, cherchez et voyez, chaque âge de croyant n'a-t-il pas repris les paroles et les pratiques de ceux qui furent persécutés à l'âge précédent, et sous la profession de ses paroles et de ses pratiques, n'a-t-il pas caché son esprit de persécution? Il n'y a qu'un reste parmi les croyants à être sauvés, la plupart d'entre eux ont toujours été des persécuteurs, se glissant dans la forme, s'en faisant une couverture sur le dos, puis combattant la vie et la puissance. Les premiers Quakers disaient que la vraie foi consistait à obéir au Christ, la lumière et la parole au-dedans de l'homme, et non simplement à croire à l'exactitude historique des affirmations de la Bible concernant la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Écoutez ma voix et obéissez-lui, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, marchez entièrement dans les voies que je vous commande, afin que vous soyez heureux. Jer 7:23 Il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Hebb 5:9 Les protestants disaient que la parole était la Bible et la source du salut. Pourtant, la Bible désigne les paroles qui s'y trouvent comme des Écritures, et la parole de Dieu comme étant Jésus. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Jean 1:14 Il est clair que ce n'est pas la Bible, c'est le Christ, la parole de Dieu. Ainsi, les Quakers disaient que, si vous n'entendiez pas le Seigneur vous parler au-dedans de vous et ne croyiez pas qu'il est le Fils de Dieu, comme en témoigne votre obéissance au commandement de la lumière et de la parole, alors vous n'aviez pas réellement la foi telle que Paul la définissait. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu puisses l'entendre et lui obéir, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Rome 10, 8 Vous devez avoir foi dans la parole qui est en vous, dans votre cœur et votre bouche, une foi pour écouter, et une foi pour obéir aux commandements entendus. Ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Rome 10, 17 La foi vient d'entendre la parole au-dedans de vous et de croire qu'elle est le Christ, la parole de Dieu. Le Christ a dit, « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent, la mettent en pratique, obéissent. » Luc 11, 28 Le Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage d'eau, par la parole, pour se la présenter à lui-même comme une Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. F 5, 25, 27 Il est évident que la Bible ne peut pas sanctifier, ne peut pas purifier, ne peut pas laver, de manière à devenir sainte et sans défaut. Mais si vous obéissez aux paroles que le Christ prononce au-dedans de vous, vous recevrez la bénédiction de la pureté et de la sanctification. Ils enseignaient qu'en obéissant à la voix du Seigneur, la parole au-dedans, le Christ la lumière apparaît ensuite dans votre cœur, le Christ la lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Ils furent persécutés parce qu'ils prêchaient qu'il faut recevoir comme Christ les convictions de la lumière, lesquelles, reconnues comme vraies et venant du Christ au-dedans, conduiraient à la purification. La grâce de Dieu ôterait les défauts du cœur, en demeurant dans la lumière, le sang du Christ les purifierait de tout péché. Les Quakers ajoutaient qu'il faut être témoin, voir et ressentir de son salut, qui vient après la pureté avec le retour glorieux du Christ au-dedans, aboutissant à l'union avec Dieu et à l'entrée dans le royaume des cieux. Le baptême, la fréquentation des offices des sectes, la prière sans parole venue du Saint-Esprit, et la simple lecture de la Bible, sans la direction de l'interprétation de l'Esprit, étaient déclarées une abomination, venant de l'esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu. Ce n'est que lorsque le vieil homme est mort et qu'une créature entièrement nouvelle et régénérée est apparue, avec un cœur circoncis seulement par la croix, que l'œuvre du salut est achevée. Ainsi, plutôt qu'une présomption d'être sauvé, ils devaient avoir, jusqu'à l'inclination au péché, tout cela ôté par le Christ de leur cœur, devenant ainsi purs, entrant dans le repos, entrant dans le royaume, entrant au paradis. Les autres sectes étaient indignés qu'on leur dise qu'ils n'étaient pas sauvés, et, dans leur colère, ils étaient prompts à réduire violemment au silence quiconque était assez audacieux. Et les Quakers répondaient, « Préféreriez-vous découvrir la vérité après votre mort, lorsqu'il sera trop tard, ou être bouleversé de l'apprendre maintenant ?» Tant qu'il y a encore du temps pour être changé, afin que vous aussi puissiez obéir à tous les commandements de Dieu. Les Quakers disaient qu'ils avaient expérimenté ce qu'ils prêchaient, que Dieu les avait envoyés prêcher à ceux qui pouvaient entendre, et qu'ils prononçaient des paroles selon l'ordre du Saint-Esprit. Comme le message « Quaker » était contraire à ce que les protestants avaient appris de leurs ministres et enseignants, beaucoup pensaient qu'ils avaient certainement été envoyés par le diable. Ceux qui avaient faim et soif de justice, ceux qui pleuraient le péché qui était en eux, et ceux qui désiraient ardemment entendre et voir leur Sauveur, témoignaient dans leur cœur de la vérité de la bonne nouvelle Quaker. Ceux qui pouvaient entendre, entendirent, les Quakers enseignaient que la foi que les apôtres prêchaient n'était pas une foi extérieure, mais une foi intérieure. L'objet des deux fois est le même, mais les différences sont cruciales pour réaliser les promesses de Dieu. Les deux fois sont, convenir, d'après l'histoire rapportée dans la Bible, que Jésus était le Fils de Dieu, né d'une vierge, ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, etc. C'est la foi biblique extérieure, entendre la parole de Dieu, cette parole qui est dans votre cœur afin que vous lui obéissiez. Voilà la parole de la foi que les apôtres prêchaient. Entendre Jésus, vous parler depuis l'intérieur de votre cœur et lui obéir, c'est la foi en action, la foi intérieure, une foi qui vous est donnée par Jésus lui-même. Par une obéissance persévérante aux commandements entendus de Dieu dans votre cœur, cette foi intérieure justifie, purifie, rachète, rend juste, sanctifie et sauve pour vous donner la paix, la joie et la justice dans l'union et la communion avec le Christ et le Père, c'est voir et écouter votre bien-aimé en menant une vie sainte qui lui plaît. George Fox a écrit au sujet de cette foi intérieure et de cette orientation nécessaire, « Le Père est en vous tous, le Christ est en vous, et le royaume des cieux est en vous, c'est là, dans vos cœurs, que vous les trouverez tous. Sachez-le là, sont dans vos cœurs, et trouvez-le là, éprouvant vos pensées et vos cœurs, inclinez vos oreilles et prêtez-lui l'oreille là, lui qui rendra à chacun de vous selon vos paroles et vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. » Les Écritures ci-dessous résument ce que les Quakers disaient être l'échec de la majeure partie du christianisme à travers les âges. La présomption d'être sauvé, sans l'obéissance requise, sans les expériences de voir Dieu et d'être en communion avec le Père et le Fils, ce qui survient après la crucifixion de l'esprit égoïste sur la croix intérieure du renoncement à soi. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, le péché, l'illégalité ou la méchanceté » Matt 7:21-23. Ces gens pensaient être des chrétiens sauvés et pensaient agir en son nom, mais ils péchaient encore parce qu'ils n'avaient pas été crucifiés et délivrés de tout péché. De la parole du Seigneur au-dedans, je ne connais que ceux qui ont été crucifiés. Jésus n'est Seigneur, roi et maître que pour ceux qui ont été libérés du péché en étant crucifiés sur la croix intérieure du renoncement à soi. Jésus leur répondit alors, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8:34. Si quelqu'un pêche encore, il est esclave du péché, et Jésus ne peut être son Seigneur, car on ne peut servir deux maîtres. Matt 16:24, Luc 16:13. Vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Rome 6:16. Les premiers Quakers disaient que le salut consiste à voir son Sauveur apporter le salut, et à être en communion avec le Christ et Dieu, un salut qui advient après la crucifixion de l'esprit égoïste jusqu'à la pureté sur la croix intérieure du renoncement à soi. Ils témoignaient être entrés dans le royaume des cieux que le Christ avait dit être venu prêcher. Les Quakers furent envoyés pour prêcher à tous le même message que Paul reçut l'ordre de prêcher par Jésus, pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent ainsi le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché et un héritage parmi ceux qui sont purifiés par la foi en moi. Cette bonne nouvelle d'obéir à la lumière et à la parole au-dedans de vous, aboutissant finalement à la pureté, était une hérésie pour les sectes protestantes, qui se tournaient vers un Dieu extérieur dans un ciel lointain et qui prêtaient attention aux paroles de la Bible plutôt qu'à la lumière et à la parole, le Christ en elle. Les Quakers dirent à toutes les sectes que leur incapacité à reconnaître et à obéir au Christ au-dedans était comme celle des Juifs, qui avaient la connaissance des Écritures, mais rejetèrent le Christ comme Messie. Pour avoir prêché le Christ au-dedans, les Quakers furent condamnés à des amendes, emprisonnés, bannis et tués, malgré le fait que ce qu'ils prêchaient est clairement énoncé dans toute la Bible, comme suit. « Ne suis-je pas un Dieu tout proche, dit le Seigneur, et non un Dieu lointain, Jer 23:23 quoi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous tenez de Dieu, vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Cor 6:19 afin qu'il cherche le Seigneur et qu'il puisse peut-être le trouver en le tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, Actes 17:24-28 j'habiterai en eux et je marcherai en eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Cor 6:16 Lève 26:12 un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en vous tous. F4:6 mes petits-enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4:19 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Cor 3:16 afin que Christ habite en vos cœurs par la foi, que vous enracinez et fondez dans l'amour, F3:17 Dieu a voulu leur faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Col 1:27 Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré. Romains 1:19 Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Romains 8:18 Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés, éprouvés et rejetés. 2 Cor 13:5 Que la parole du Christ habite en vous abondamment dans toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres avec des paroles du Christ dans vos cœurs par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C 0L 3:16 Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ pour régner sur un homme comme son roi, faisant sa volonté, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est votre vie à cause de la justice. Romains 8:9 dit « Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais comme cette même onction vous enseigne toute chose, qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas un mensonge, et comme elle vous l'a enseignée, vous demeurez en lui. 1 John 2:27 Si un homme demeure en moi, et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, amour, joie, paix, quiétude et confiance assurée pour toujours, patience incluant longanimité, fermeté et persévérance, bonté incluant moralité et intégrité, bienveillance, foi, douceur incluant docilité et humilité, et maîtrise de soi, domination des appétits, passions et désirs sensuels. John 15, 5, 6, Gal 5, 22, 23. Lorsque vous portez, produisez ou faites naître beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes vraiment mes disciples, vrais disciples. John 15, 8. Pour entendre, vous devez aller à lui. Vous devez l'attendre, écouter dans un silence humble avec l'espoir de sa puissance de transformation par la grâce de Dieu. Quand vous entendez, vous devez ensuite obéir à chacun de ses enseignements ou commandements, alors sa puissance puissante vous changera. En faisant cela de façon répétée au fil du temps, vous êtes purifié par la grâce et par la foi, une foi qui croit et obéit aux paroles entendues au-dedans. S'asseoir en silence, s'exposer à ses commandements puis obéir, c'est se renier soi-même et le suivre la croix. Contexte des persécutions. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et vous persécutent. Matt 5:44 selon Fox dans son journal. Amis, ne craignez jamais leurs actes, prison, geôle, maison de correction, bannissement, ni la saisie des biens personnels, non, ni même la perte de la vie. Et il n'y eut jamais de persécution qui survint sans que nous voyions comment elle tournerait au bien. Et il n'y eut jamais de prison où je fus, ni de souffrance, sinon pour faire sortir des multitudes de prison. Car ceux qui emprisonnaient la vérité et étouffaient l'esprit en eux-mêmes l'emprisonneraient et l'étoufferaient aussi hors d'eux, de sorte qu'il y eut un temps où tant de gens étaient en prison. Les Quakers furent persécutés par les puritains, congrégationalistes, les baptistes, les presbytériens et les anglicans, épiscopaliens en Europe et en Amérique. Les souffrances des premiers Quakers constituent un témoignage lourd de l'authenticité de leur foi, car le Christ nous a dit que ses disciples rencontreront toujours la haine du monde, en particulier celle des religieux professés du monde. Ils ne cherchèrent jamais vengeance, même lorsque les tribunaux l'offraient rarement. Les premiers Quakers souffrirent patiemment sous tous les gouvernements de l'époque, bénissant, pardonnant et priant pour leurs accusateurs et leurs geôliers. Ils adressèrent des appels personnels et courtois aux autorités gouvernantes, mais jamais de protestations ou de résistance organisée. Leurs souffrances patientes finirent par amener le Parlement à adopter des lois garantissant la liberté religieuse, qui furent également intégrées à la Constitution des États-Unis. Le Seigneur utilisa leurs souffrances comme épreuve pour conduire beaucoup d'hommes et de femmes à la perfection et dans le royaume des cieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, et des milliers l'ont effectivement reçu. Mais ci-dessous, vous pouvez voir une partie de la vengeance que Dieu exerça contre les persécuteurs de son peuple. Il y eut tant d'actions de Dieu contre les persécuteurs de son peuple qu'un livre fut écrit, relatant les morts étranges des persécuteurs des premiers Quakers. Les Anglicans, épiscopaliens, créés pour justifier la convoitise du roi Henri VIII pour de nouvelles épouses, avaient de même l'habitude d'assassiner quiconque mettait en question leur autorité religieuse ou celle de leur grand roi. 72 000 catholiques romains furent exécutés. Beaucoup furent brûlés vifs pour avoir contesté que le pain était réellement changé en corps du Christ par les sacrements. En Hollande, quiconque se faisait rebaptiser risquait pareillement d'être brûlé. Ainsi la scène était prête pour les actes de ce que Fox appelait « la génération la plus brutale de persécuteurs religieux de l'histoire de la Terre ». Tous dirigés contre les Quakers qui ne ripostaient jamais, ne se vengeaient jamais, priaient pour leurs persécuteurs et raisonnaient avec eux, mais ne protestaient ni ne s'opposaient aux cinq gouvernements différents qui détenaient le pouvoir durant leur persécution. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, et ainsi le reçurent-ils. La bête du livre de l'Apocalypse est la bête de l'autorité religieuse païenne, dont la puissance fut sévèrement réduite une blessure à la tête par le christianisme primitif, en particulier dans la région méditerranéenne. Mais une seconde bête surgit bientôt, qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui était une bête. Notez que cette bête paraît chrétienne, et sous le prétexte de l'autorité de l'agneau, bien qu'agissant par la puissance du dragon, dérivée de la première bête de la religion païenne, contraint les hommes à se conformer à de telles traditions, cérémonies et rituels, comme devoirs chrétiens qui ressemblent aux coutumes des païens, dans leur culte idolâtre et leur superstition. Toute la terre suivit cette bête et le fait encore. Ainsi la fausse église se leva, et quiconque niait cette fausse église, ou ne confessait pas ses péchés à un prêtre catholique trois fois par an, ou ne recevait pas le pain et le vin de l'Eucharistie trois fois par an, était martyrisé par l'Inquisition. Des prêtres fouillaient avec diligence, à l'intérieur et à l'extérieur des villes, toutes les maisons suspectes et des propriétés entières pour trouver de tels hérétiques qui ne se conformaient pas aux sacrements catholiques. Ainsi, si les gens ne cherchaient pas Dieu et le Christ en se conformant à la méthode de culte de la secte catholique, ils étaient exterminés comme de la vermine. En se conformant au culte de la secte catholique, ils recevaient sa marque. Quiconque cherchait à accroître sa mesure de Christ, à acheter ou vendre de l'huile spirituelle pour sa lampe, par un moyen différent de celui de la masse de l'Église catholique, n'ayant pas la marque de la fausse Église, était non seulement arrêté, mais aussi cruellement torturé par l'Inquisition puis tué, ce qui les rendait réellement incapables d'acheter ou de vendre. Acheter ou vendre sont des métaphores signifiant acquérir davantage du Saint-Esprit, ce que démontrent aussi plusieurs autres écritures au moyen d'autres métaphores eau, pain, vin, or, huile pour le Saint-Esprit. Achète la vérité et ne la vend pas, achète aussi la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Proverbe 3:23 Venez, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ? Et le fruit de votre travail pour ce qui ne rassasie pas, écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte dans l'abondance. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez et obéissez et votre âme vivra. Isaïe 55:1-3 Quel pain ? Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » John 6:35 L'Esprit donne la vie, les paroles que je vous dis sont esprit et donnent la vie. John 6:63 Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé et purifié au feu, afin que tu sois riche. Rev 3:18 L'or éprouvé et purifié au feu est une foi qui a été testée et éprouvée par le feu. Épreuve, souffrance et tribulation, faisant toute partie de la croix que tout croyant doit endurer pour entrer dans le royaume. Pour plus de détails sur la marque de la bête, voir la note de bas de page d'Apocalypse 13:16-17 dans la Bible en ligne de ce site. Au Moyen Âge, 800 ap JC, à 1500 ap JC, 9 millions d'âmes furent mises à mort par les catholiques romains. Voir les persécutions du Moyen Âge pour savoir comment 9 millions de personnes ont été tuées à travers l'Europe. De la parole du Seigneur au-dedans, on pouvait voir que tout homme qui n'était pas en conformité avec l'Église catholique était tué. Et tandis que cette fausse Église est souvent identifiée par les protestants comme l'Église romaine, les protestants font tous partie de la même fausse prostituée, sa bête porte de nombreux noms et de sectes déficients pratiquant les inventions humaines des catholiques. Baptême des nourrissons, trinité nulle part mentionnée dans les Écritures, mariage célébré par des prêtres, bâtiment vain et orgueilleux appelé saint, clocher avec des cloches, robe noire, chemise noire, col spéciaux credo, lecture de sermons, sacrements, vicaire, clerc, pasteur. Les offices protestants ont leurs racines dans la messe catholique, qui est contraire à toutes les directives du Nouveau Testament et d'origine médiévale. Elle reflète des rituels magiques et païens et le théâtre grec, séparant le corps du Christ en deux classes, l'ordre du clergé privilégié et vanté, contre l'auditoire ou laïca, qui ne faisait que regarder et écouter le spectacle dramatique appelé culte. Sous la direction de l'empereur Constantin, qui avait empoisonné son fils et fait bouillir sa femme jusqu'à la mort, la secte catholique fut intégrée au gouvernement romain, qui prescrivit sa doctrine, bâtit ses églises dans tout l'Empire, paya le clergé, vêtit le clergé de manière identique aux fonctionnaires du gouvernement romain, abolit la Pâque pour devenir Pâques, et fixa Noël pour coïncider avec des fêtes païennes romaines. Des noms chrétiens furent appliqués à divers rituels et traditions païens, leur donnant une crédibilité auprès des gens non méfiants. Tous les croyants chrétiens d'Icide furent soit bannis en exil, soit tués. De nombreuses persécutions catholiques romaines furent justifiées par la célèbre phrase de saint Augustin. Pourquoi l'Église ne devrait-elle pas user de la force pour contraindre ses fils perdus à revenir, si les fils perdus ont contraint d'autres à leur perdition ? Un exemple classique de la fin justifie les moyens, qui perd de vue le commandement principal du Christ, « Aimez vos ennemis, non les détruire », un autre saint supposé. Thomas d'Aquin a écrit, du côté de l'Église cependant, il y a une miséricorde qui vit à la conversion de l'égaré. C'est pourquoi elle ne le condamne pas aussitôt, mais après un premier et un second avertissement, comme l'apôtre l'ordonne, après cela, s'il demeure obstiné, l'Église n'espérant plus sa conversion, veille au salut des autres en l'excommuniant et en le séparant de l'Église, et en outre le livre au tribunal séculier pour qu'il soit ainsi exterminé du monde par la mort. Ces saints vénérés ont froidement ignoré les Écritures du Nouveau Testament qui déclarent clairement que nous devons aimer nos ennemis, prier pour nos ennemis, tendre l'autre joue, et qu'il est satanique de seulement envisager de tuer ceux qui ne partagent pas notre foi. Jésus a en outre dit que, si quelqu'un viole les normes de l'Église pêche, il doit être averti par un, puis averti par deux ou trois, puis repris par tout le corps des croyants et s'il refuse de se repentir de son erreur, il doit être expulsé et évité, non tué, ni emprisonné, ni torturé, ni dépouillé de ses biens. Nous devons aimer et prier pour nos ennemis, pas les détruire. La réforme engendra les protestants, et eux aussi étaient friands de meurtre, suivant les traces de leur mère, la secte romaine. Jean Calvin, l'un des principaux fondateurs du protestantisme, encore vénéré par de nombreuses sectes protestantes, força les citoyens de Genève à assister aux offices sous la lourde menace de la peine de mort ou de l'expulsion. Parce que Michel Servet avait contesté les écrits doctrinaux de Calvin, Calvin fit inculper et arrêter Servet pour hérésie, le refus par Servet du baptême des nourrissons et de la Trinité, ce qui conduisit Servet à être lentement brûlé vif avec du bois vert. Jacques Gruet, opposant connu de Calvin, fut arrêté, torturé pendant un mois et décapité le 26/07/1547 pour avoir placé une lettre dans la chair de Calvin le traitant d'hypocrite. Calvin fit également brûler vives 34 femmes comme sorcières, accusées d'être responsables d'une peste. Sa théocratie à Genève se vit attribuer l'exil de 76 personnes et un total de 58 condamnations à mort après torture pour obtenir leur confession. Calvin justifia la torture et l'exécution des hérétiques, écrivant « Quiconque soutient qu'on fait tort aux hérétiques et aux blasphémateurs en les punissant se rend complice de leurs crimes et aussi coupable qu'eux. Il n'est pas ici question de l'autorité de l'homme, c'est Dieu qui parle, et il est clair quelle loi il veut voir garder dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Pourquoi donc exige-t-il de nous une sévérité si extrême, sinon pour nous montrer que l'honneur qui lui est dû ne lui est pas rendu, de sorte que nous n'épargnions ni parenté, ni le sang de qui que ce soit, et que nous oublions toute humanité lorsqu'il s'agit de combattre pour sa gloire. Les apologistes de Calvin, versant le sang et oubliant toute humanité, font remarquer que bien d'autres protestants tuèrent aussi des hérétiques, la défense du tout le monde le faisait. Jésus a dit « Quiconque vous tuera pensera et prétendra qu'il rend un culte à Dieu ». John 16:2 Un autre fondateur protestant vénéré fut Martin Luther, rempli de haine contre les Juifs. D'après l'article Wikipédia sur Martin Luther et d'après l'article Wikipédia sur la Kristallnacht, la nuit de cristal, Luther prôna d'abord la bienveillance envers les Juifs, mais uniquement dans le but de les convertir au christianisme, ce qu'on appelait la Judenmission. Lorsque ses efforts de conversion échouèrent, il devint de plus en plus amé envers eux. Ses principaux ouvrages sur les Juifs furent son traité de 60 000 Mauvon den Juden und ihren Lügen, des Juifs et de leurs mensonges, et Vom Schem Amphoras und Vom Geschlecht Christi, du Saint-Nom et de la lignée du Christ, réimprimé 5 fois de son vivant, tous deux écrits en 1543, 3 ans avant sa mort. Il soutenait que les Juifs n'étaient plus le peuple élu, mais le peuple du diable. Ils étaient un peuple vil et prostitué, c'est-à-dire pas un peuple de Dieu, et leur ventrie de lignée, de circoncision et de loi doit être tenue pour de la saleté. La synagogue était une épouse souillée, oui, une prostituée incorrigible et une mauvaise traînée, et les Juifs étaient pleins des excréments du diable dans lesquels ils se vautrent comme des porcs. Ils préconisaient de mettre le feu aux synagogues, de détruire les livres de prières juifs, d'interdire aux rabbins de prêcher, de saisir les biens et l'argent des Juifs, de démolir leurs maisons, et de veiller à ce que ces vers venimeux et empoisonnés soient contraints au travail ou expulsés pour toujours. Ils semblaient aussi approuver leurs meurtres, écrivant « Nous sommes en faux de ne pas les tuer ». La persécution nazie des Juifs en Allemagne commença à grande échelle lors de la Kristallnacht, la nuit de cristal, au cours de laquelle 200 synagogues furent brûlées, des livres juifs, des rouleaux et des antiquités furent brûlés, 7500 devantures de commerce juifs furent brisées d'où le nom de verre brisé, des pierres tombales et des tombes furent arrachées, 30 000 Juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration, au moins 100 furent immédiatement assassinés, et de nombreuses maisons furent pillées. Un pogrom similaire d'ampleur comparable eut lieu à Vienne, en Autriche, la même nuit. Ces événements se produisirent les 9 et 10 novembre 1938, l'anniversaire de Luther était le 10 novembre. Les conseils de Luther furent appliqués à la lettre lors de la Kristallnacht. Ce fut le début de la solution finale et de l'Holocauste. Selon Michael, l'œuvre de Luther acquit en Allemagne un statut d'écriture, et il devint l'auteur le plus largement lu de sa génération, en partie en raison du caractère grossier et passionné de ses écrits. L'opinion dominante parmi les historiens est que sa rhétorique anti-juive contribua de façon significative au développement de l'antisémitisme en Allemagne, et, dans les années 1930 et 1940, fournit une base idéale aux attaques des nationaux-socialistes nazis contre les Juifs. Reinhold Lewin écrit que « quiconque écrivait contre les Juifs, pour quelque raison que ce soit, croyait avoir le droit de se justifier en se référant triomphalement à Luther. Selon Michael, à peu près chaque livre anti-juif imprimé dans le Troisième Reich contenait des références à Luther et des citations de Luther. Heinrich Himmler écrivit avec admiration au sujet de ses écrits et sermons sur les Juifs en 1940. La ville de Nuremberg offrit une première édition de « Des Juifs » et de leurs mensonges à Julius Treschow, rédacteur du journal nazi Der Stürmer. Pour son anniversaire en 1937, le journal le décrivit comme le pamphlet le plus radicalement antisémite jamais publié. Le 17 décembre 1941, 7 confédérations régionales d'églises protestantes publièrent une déclaration approuvant la politique consistant à forcer les Juifs à porter l'étoile jaune, puisque, après son amère expérience, Luther avait déjà suggéré des mesures préventives contre les Juifs et leur expulsion du territoire allemand. Toutes les sectes protestantes et catholiques qui tuèrent ou même approuvèrent qu'ont eu ceux qui avaient une opinion religieuse différente étaient très différents des vrais chrétiens, rien qu'en envisageant le meurtre, elles suivaient et cédaient à leur père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Peut-être commencez-vous à voir qu'en 388 ap. J.C. la chrétienté avait été transformée en synagogue de Satan, avec des ministres de Satan déguisés en ministres de justice. Augustin et Thomas sont deux des quatre piliers du catholicisme romain. Calvin et Lude sont les principaux fondateurs du protestantisme. Si les fondateurs vénérés des sectes sont mauvais, comment les sectes et leurs doctrines promulguées ne pourraient-elles pas être mauvaises aussi? Quand la racine est mauvaise, peu importe le nombre de branches sur l'arbre, elles sont mauvaises aussi. De la parole du Seigneur au-dedans, ils sont corrompus de part en part, et malheur à ceux qui essaient de tirer le bien du mal. Et la prostituée était ivre du sang des saints, les inquisitions et massacres de l'Église romaine à travers l'Europe, au cours desquels, durant le Moyen Âge, 800 ap. J.C. à 1500 ap. J.C., 9 millions d'âmes furent mises à mort, accusées de sorcellerie. Les fanatiques protestants d'Allemagne, inspirés par la traduction radicale de la Bible par Lude, violèrent, pillèrent et tuèrent 100 000 catholiques et membres des classes supérieures lors de la guerre des paysans. Le roi d'Angleterre Henri VIII, fondateur de la secte épiscopale, fit tuer 72 000 opposants, principalement des catholiques. L'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande subirent trois guerres civiles de puritains astérisques contre des gouvernements au pouvoir, qui laissèrent 190 000 morts en Angleterre, 3,7% de la population, 60 000 morts en Écosse, 6% de la population, et 616 000 morts en Irlande, 41% de la population, majoritairement catholique. Astérisque justifiant leur révolution comme l'avènement du royaume du Christ sur la terre, les puritains considéraient leurs adversaires comme des ennemis du Christ. Les officiers puritains de leur armée galvanisaient fréquemment leurs troupes en criant une citation de l'Ancien Testament contre l'idolâtrie païenne, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec tromperie et qui retient son épée loin du sang. » Les soldats puritains et parlementaires victorieux, avec leurs extraordinaires noms bibliques, Prescott Barbone et Sergent Hugh Agag in Pious Before the Lord, parcouraient le pays, brisant les images dans les églises, arrachant les tuyaux des orgues, brisant les vitraux, et mettant leurs chevaux à l'écurie dans les cathédrales. Cela fut suivi, au XVIII siècle, par les protestants d'Angleterre et d'Amérique, qui en 50 ans, furent responsables de la mort de plus de 869 Quakers, emprisonnant des dizaines de milliers de personnes et saisissant les biens de dizaines de milliers. Les persécuteurs des Quakers comprenaient des épiscopaliens, des presbytériens, des congrégationalistes et des baptistes. Trois hommes et une femme furent pendus à Boston par les puritains croyant à la Bible. La fausse église se vante de ne pas être veuve et de ne jamais voir le deuil. Elle se vante que le Christ est leur époux. Mais ces fausses églises sont la prostituée de Babylone, qui ignore les commandements du Christ de se repentir, ses enseignements, ses exigences, ses avertissements, sa sainteté requise, son évangile, son royaume, sa liberté promise du péché, et sa croix intérieure du renoncement à soi, la croix manquante vers la pureté. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.